Par héritage philosophique, l'enseignement français a tendance à séparer le corps de l'esprit. Socrate nommait le corps le tombeau de l'âme, dans une formule funèbre. Et Descartes sépare lui aussi esprit et corps, faisant de ce dernier une machine bien huilée qui obéit à la pensée. Même si la philosophie questionne ce dualisme, il semble encore très opérant, notamment dans notre rapport à l'enseignement. On se demande à qui nous enseignons. À l'ensemble de l'être humain qu'est l'élève, ou seulement à son intellect? Le PS est-elle la seule discipline qui éduque alors les corps? L'enfant et l'élève doivent-ils faire taire leur corps pour mieux élever leurs esprits? Ou le corps est-il aussi le sujet de l'éducation? N'y a-t-il que des corps oubliés à l'école? Quel rapport au corps organise alors et ordonne la salle de classe? Pour le savoir, nous avons mené l'enquête.
Enquête d'école, Adeline Outchanger.
Si on écoute encore une fois les philosophes qui inspirent nos modèles éducatifs, Kant affirme « C'est ainsi, par exemple, que l'on envoie tout d'abord les enfants à l'école, non dans l'intention qu'ils y apprennent quelque chose, mais afin qu'ils s'habituent à demeurer tranquillement assis et à observer ponctuellement ce qu'on leur ordonne. » Ainsi, l'enfant y apprendrait à maîtriser son corps et à user de ce corps pour obéir. Est-ce là une vision complètement dépassée de l'école ? Force est de constater que les enquêtes et recherches contemporaines constatent encore cette contrainte des corps imposée aux élèves. Écoutons Sylvain Vagnon, professeur des universités en sciences de l'éducation.
Dans l'histoire de l'école française, l'idée est quand même de créer un intellect. Donc on pense d'abord à la tête, et puis on estime que le corps va suivre. C'est-à-dire que le corps, il va suivre, on va le domestiquer quelque part, on va apprendre aux enfants à s'asseoir, à rester longtemps assis, si on regarde, à ne pas prendre en compte leur rythme aussi biologique. On sait très bien qu'encore aujourd'hui, la question même des toilettes, qui paraît peut-être un peu incongrue comme ça, mais qui est liée aussi à ça, c'est-à-dire de prendre en compte qu'un jeune enfant a besoin d'aller aux toilettes, d'avoir des toilettes correctes, et on sait que c'est un vrai problème. On a des études là-dessus qui le montrent.
En effet, le corps n'est pas tellement sollicité dans les apprentissages au-delà de l'école maternelle ou primaire. Cependant, une discipline du corps est jugée nécessaire à la transmission des connaissances. Les élèves sont alors jugés en fonction de leur appropriation plus ou moins grande des logiques et codes corporels de l'école. L'autocontrôle, l'écoute, l'obéissance et l'immobilité. Anne Dizerbeau, chercheuse en sciences de l'éducation, écrit dans « Être et avoir un corps à l'école » que plus les enfants avancent dans les classes, plus leurs corps sont contraints. Par le découpage temporel, par l'immobilité, par la passivité. En parallèle, elles et ils sentent de plus en plus la séparation entre leur identité personnelle et leur rôle d'élève. Comme si la personne restait au seuil du portail d'entrée. Un élève à l'école, une personne dehors, relève-t-elle ? Cette impossibilité d'être soi-même serait alors liée à l'impossibilité de disposer de son propre corps. Au risque d'insister, là encore, le dualisme vient donner sens à ses pratiques. Le corps, ce serait ce qu'il y a de personnel, de singulier en la personne, et donc sa part subjective. Autrement dit, c'est une expérience qui ne peut pas être complètement comprise et partagée par et avec les autres. Tandis que la raison, l'intellect, c'est la faculté partagée, c'est la possibilité d'un universel. Ainsi, faire taire le corps, c'est faire taire la singularité et l'individuation, pour au contraire valoriser ce qui nous rassemble, ce qui permet l'intégration et une forme d'uniformisation. L'idée serait que les corps sont ce qui nous différencie, et crée alors de l'inégalité, quand l'intellect, lui, est le fondement d'une éducation égalitaire. Non seulement cette séparation entre le corps et l'intellect de l'élève a quelque chose d'illusoire, mais elle fait aussi obstacle aux apprentissages et cette négation des corps vient faire violence aux identités. Écoutons Fabien Greninger, maître de conférence en histoire.
Le dualisme corps-esprit marque l'école française à travers la dichotomie entre les apprentissages cognitifs et les apprentissages corporels, manuels et émotionnels. Cette hiérarchisation du corps et de l'esprit traduit une méconnaissance des mécanismes d'apprentissage, de motivation et d'intérêt des enfants.
De fait, le corps de l'élève est soit rejeté, vécu comme encombrant, odorant, trop grand, soit surveillé de près, même un regard qui s'échappe est susceptible d'être rappelé à l'ordre. Soit il est nié, quand il s'agit des changements corporels des adolescents et de certains besoins primaires. Dans la série « Tu mourras moins bête », Marion Montaigne explique une partie de ces changements.
Pendant les premières années, le cervelet gérait le corps de l'enfant. Et c'était fastoche. Direction assistée, endurance optimale, souplesse au top. Bref, le cervelet était rodé. Et là, tout d'un coup, sans prévenir, bam ! Pic de croissance. Hein ? C'est comme s'il passait du jour au lendemain d'un jeu d'arcade à un cockpit de la NASA. Et c'est pour ça qu'à ce stade, l'ado est maladroit, mou et désordonné.
Gentil, vous avez la grâce d'une brique.
Dans la lignée de cette séparation corps-esprit, le corps des adolescents est naturalisé. C'est le biologique et l'animal qu'il faut dompter. Dans son enquête, Ingrid Voléry, sociologue, relève les discours sur les hormones, l'animalité, la libido, la puberté, comme si les corps étaient l'irruption de l'animalité dans un cadre civilisé. Elle s'interroge sur cette vision naïve de ce qu'est le corps humain, qui est façonné par la culture, par les relations sociales, à travers les habitus.
Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cet habitus, il va se faire avec nos expériences, et donc aussi à l'aide de ceux qui nous entourent. Ça commence pendant l'enfance et l'adolescence, ce qu'on appelle la socialisation primaire, c'est la famille, l'école, en fait c'est toute la première sphère dans laquelle on va évoluer et avoir notre éducation. Par exemple grâce au langage, et pas juste les mots, aussi le corps. L'enfant va apprendre à dire merci, il va apprendre comment le dire, mais il va aussi apprendre à le dire par la gestuelle. Il va apprendre à exprimer d'autres choses, comme ce qu'il veut manger, mais aussi le sourire ou la grimace. Tout ça, ça va construire l'enfant, et cette construction continue à l'âge adulte. C'est la socialisation secondaire.
C'est d'autant plus étrange que les corps des professeurs, eux, sont reconnus à la fois comme un instrument maîtrisé, mais aussi comme le révélateur d'un statut, d'une socialisation, voire d'une authenticité. Le premier contraste est que le corps du professeur est omniprésent. Il est exposé, il doit être regardé et être le centre de l'attention. La voix, le regard, les gestes organisent la classe. Le corps se déplace et occupe l'espace. Dans les formations enseignantes, on trouve des modules pour apprendre à placer sa voix, pour utiliser son corps comme un instrument de la relation pédagogique. Le métier est alors souvent comparé à une performance théâtrale qui demande une maîtrise du corps pour incarner un personnage. Jean-François Moulin, ancien formateur à l'UFM d'Amiens, dans son article sur le discours silencieux des professeurs, montre que les professeurs expérimentés usent de leur corps différemment des débutants. Elles et ils occupent plus l'espace, ont moins de marques corporelles de malaise. D'ailleurs, ce n'est pas seulement en tant qu'instrument que le corps de l'enseignant est central, mais aussi comme corps habité, comme incarnation de son esprit. C'est un constat étonnant. Le corps de l'élève n'est pas complètement reconnu comme faisant partie de son identité publique et sociale, tandis qu'on reconnaît le corps des enseignantes et des enseignants comme manifestation de leur identité et statut. Claude Pujade-Renaud, dans sa thèse en sciences de l'éducation, soutient que, je cite, « le dynamisme, l'aisance des manières, le plaisir d'être bien dans sa peau, de communiquer et d'enseigner, lisibles dans le corps même de l'enseignant, sont présentés comme des conditions de l'appétence de l'élève à l'égard des connaissances et des facilitateurs de transmission. » Dans les discours, le corps des professeurs a donc une place prépondérante dans l'enseignement. Pourquoi ne pas supposer en retour la même chose pour les élèves ? À l'adolescence, le corps se transforme, mais il devient aussi investi d'un rôle support pour la construction de l'identité, l'expression de soi au monde. Il est donc au cœur des préoccupations des jeunes, et pourtant, à l'école, il est absent. Claude Pujade-Renaud, toujours, parle d'élèves zombies, dont le corps n'est pas habité, vidé par l'extrême passivité, il n'est plus là. On observe donc une relation corps à corps inégale, alors même que le corps peut être un lieu de rencontre et de transmission pédagogique. Plusieurs chercheuses et chercheurs, telles Mélodie Benoît dans son analyse sur le corps discipliné à l'école, comparent la surveillance au sein de la classe à un regard panoptique, emprunté aux analyses de Foucault dans le milieu carcéral.
Attention. The following inmates, when names are called, will be transferred due to overcrowded.
L'élève est conscient d'être constamment sous surveillance, qu'on attend une complète attention de son esprit qui doit se lire dans sa posture et son regard. Ses seuls membres sollicités sont les yeux, l'oreille et la main. Cette surveillance est alors un instrument du pouvoir exercé. Elle garantit un rapport inégal entre la personne qui a le droit d'être en mouvement, parler, faire courir son regard, et celles qui sont soumises à des contraintes très fortes sur leur corps. Pourtant, le corps est un support de la relation pédagogique. Il y a même des distances plus ou moins propices à l'apprentissage dans la classe. F. Berger, dans sa thèse, montre qu'il y a une corrélation entre la position de l'élève, son attention en classe et son rendement scolaire. Les professeurs ne doivent pas être trop proches pour ne créer ni pression ni malaise, mais pas trop loin non plus pour éviter le désinvestissement. Penser la distance et la proximité, c'est déjà ce que font beaucoup d'enseignantes et d'enseignants en refusant les rangées en ligne et en aménageant des îlots de travail ou des salles en U. Dans les petites sections, la question des gestes de contact est vécue comme un média pour l'enseignement. Jean-François Moulin liste ainsi tous ces gestes du corps à corps encore bien présents, bien que limités, entre adultes et élèves. Par exemple, les gestes d'encouragement en prenant par la main ou d'injonction en déplaçant un enfant dans le rang. De même, les plus petits enfants apprennent par le corps. Cette enseignante, par exemple, apprend la géométrie en leur faisant reproduire les angles avec leur corps.
Aigu, droit, obtus, plat, angle nul, angle plein, parallèle.
Pour les plus grands, on peut aussi faire l'hypothèse que mettre les corps en activité, ou du moins exercer une contrainte moins grande sur eux, soit propice à leur bien-être et à la transmission des savoirs. Mobiliser les élèves veut bien dire mettre en mouvement. Il semble que même les exercices de pédagogie active se concentrent sur l'action intellectuelle d'un élève assis et immobile, peut-être en groupe ou en équipe, mais la question des déplacements, de la liberté des corps et de la mobilité est peu interrogée. Penser le corps à l'école nous invite donc à envisager de reconnaître que les élèves sont des corps, mais des corps socialisés, déjà construits, pas animaux. Ainsi, les codes scolaires comme la distance, certains gestes, l'immobilité ne sont pas incorporés de la même manière, mais en revanche, on peut penser le bien-être physique pour l'ensemble des élèves comme un horizon de transformation des pratiques. On pourrait par exemple favoriser les déplacements pendant les heures de travail en groupe, accorder l'accès aux toilettes, réorganiser l'espace de la classe.
En tout cas, être assis, c'est un pis-aller. Ça veut dire, en gros, ben oui, c'est sûr qu'à certains moments, on a besoin d'être assis, mais le reste du temps, être mobile, bouger, ce n'est absolument pas un obstacle pour les apprentissages, bien au contraire.
Dans le numéro des cahiers pédagogiques nommé « Apprendre par le corps », les enseignantes et enseignants proposent de laisser les élèves utiliser le tableau ou d'incarner des argumentations par les débats mouvants où les élèves se déplacent physiquement d'un camp à l'autre quand ils reconnaissent être touchés par un argument, une manière presque de jouer par les corps l'exercice de la dissertation. Sans nier le bienfait de l'immobilité pour la concentration, il s'agit de reconnaître que cette technique du corps s'apprend pour qu'elle ne soit pas douloureuse. Reconnaître également que ces corps existent, face à nous, en classe, et qu'ils font partie des êtres à éduquer, que ces corps ne sont pas que la nature et le biologique en nous.
C'était Enquête d'école avec Adeline Unscheringer et Sébastien Boudin à la réalisation et au mixage. Retrouvez toutes les références sur le site de Cadécole et rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode.